B3. Et on est toujours à savoir, on est toujours en train de chercher de savoir, est-ce que Tsar Baal Echaim, l'interdiction de faire souffrir un animal, monsieur Bismuth, est-ce que l'interdiction de... Ça vous dérange pas?
Non, parce qu'on dit je mets là-bas, ça veut dire
je vais faire mon talit ou...
Je vais faire mon truc à moi, ça. Hein. Et du en magasin, là.
Ça va être tranquille, je m'approche, ça va être du corps à corps, je vous préviens. Hein.
Enseignant. Alors, donc, on est toujours en train d'essayer de chercher à savoir, est-ce que Tsar Baal Echaim, faire souffrir un animal, est-ce que c'est assur de la Torah, ou est-ce que c'est assur des Chachamim? Quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est assur, mais la question qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que c'est assur de la Torah, ou est-ce que c'est assur des Chachamim? Et on trouvera dans la suite des cas de figure dans lesquels il y aurait une différence si on dit que c'est de la Torah, ou si on dit que c'est des Chachamim. Donc pour l'instant, on a essayé d'amener des preuves de notre Mishnah, mais on n'a pas réussi. D'accord? On a déjà amené, si je ne me trompe pas, 5 preuves, 5 éléments de preuve, mais à chaque fois on les a repoussés. Comment on repousse les éléments de preuve? En disant qu'on a peut-être mal compris, que c'est pas ça ce qu'on voulait dire, donc du coup on n'a pas de preuve.
Et peut-être un cas où ça marche pas. Donc.
Peut-être un cas où ça marche pas, etc. Donc du coup, zéro preuve, il n'y a pas de preuve. Maintenant la Gemara va amener une seconde preuve, donc je pense que c'est une sixième preuve, si je ne me trompe pas, que ça, Baal Echaim, faire souffrir un animal, c'est pas assur de la Torah. Donc on est à la fin de la page 32B3. Tashma. La dernière ligne. Tashma, viens écouter. C'est un célèbre dans une braïta. Behemat ovet kochavim. Si il y a un animal, l'animal qui appartient à un goy. C'est un non-juif. Attention, ça va se corser. Donc un animal qui appartient à un non-juif. Ou masoy Israël. Et masoy, ça veut dire la charge qu'elle contient, appartient à un juif. C'est quoi le problème? Ne regardez pas la suite. C'est quoi le problème ici? Je répète. Vous avez la bécane qui appartient à un juif, à un goy, et la charge qu'elle contient appartient à un juif.
Le problème, c'est que...
Alors, on a deux problèmes. Donc, bien entendu, de quoi on parle? On parle d'un cas où elle a coulé sous sa charge. Ça, bon, ça, il n'y a pas besoin de le dire. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit? La question qu'on se pose, c'est est-ce que je dois l'aider à décharger ou pas?
Quel rapport avec...
La seconde.
Attends.
Qui est en danger ici? L'animal ou la marchandise? L'animal est par terre comme ça avec
ça peut
la marchandise sur lui.
Ça peut être les deux. Toujours l'animal?
Toujours l'animal, ce qu'on a expliqué depuis le début. Qui est en danger? C'est uniquement l'animal.
Bien sûr.
D'accord? Très bien. Donc, l'animal ici appartient à qui?
Au goy.
C'est quoi toi? Azak Baruch. Tu veux te mettre là-bas, tu sais, avec Yaakov? Ah d'accord. Donc l'animal ici appartient à qui? L'animal ici appartient au goy. D'accord. Donc, puisque l'animal appartient au goy, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je dois l'aider ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez?
Par rapport à la charge, oui.
Oui, mais la charge, il n'y a pas de risque pour la charge maintenant.
Alors, bah, oui, on doit l'aider.
Non, alors là, dans ce cas-là, c'est l'aider à recharger. Oui. Mais n'oubliez pas que l'aider à décharger, j'ai l'obligation de l'aider, même si c'est mon ennemi. Je répète.
Alors, à plus forte raison.
Attention, je répète. Il y a deux mitzvot.
Mon ennemi est juif.
Deux secondes. Oui. Deux secondes. Je répète. Il y a deux mitzvot. Première mitzvah, c'est que si je vois l'animal, même de mon ennemi, en train de crouler sous sa charge, je dois l'aider à décharger. Même si c'est mon ennemi, je dois l'aider sans rémunération. C'est un premier digne. Deuxième digne qui est écrit, c'est une fois que tu l'as déchargé, donc tu vas aider l'animal à se relever, ensuite il faut aider à recharger. Ça, je dois le faire que si c'est mon ami. Enfin, je dois le faire, je peux le faire si c'est mon ennemi, mais je ne suis pas obligé. Non, mais... Et je peux demander aussi une rémunération pour recharger. A priori, la différence qu'on a trouvée entre les deux, c'est la souffrance de l'animal. C'est que quand l'animal est par terre avec la charge sur lui, il est en train de souffrir. Alors que quand, une fois qu'on l'a déjà déchargé, là, il peut demander de l'aide extérieure, il a le temps pour demander de l'aide extérieure. Très bien. Là, la question qu'on se pose, c'est la suivante. Si l'animal appartient à un non-juif, pas un juif, ni mon ennemi, c'est un non-juif.
C'est pas mon ami, le non-juif.
Bon, peu importe.
C'est toujours l'animal.
C'est ni mon ami, ni mon ennemi.
C'est toujours l'animal qu'on doit
explorer. Ah, très bien, bonne question. Donc qu'est-ce qu'il dit? Oui,
bien sûr.
C'est toujours un animal?
Oui, bien sûr.
Donc d'après vous, qu'est-ce que vous dites?
On doit le secourir.
On doit le secourir? Qu'est-ce que ça change?
Si c'est pas biblique.
Deux secondes. Bon, on va voir ce qu'elle dit cette braïta. Qu'est-ce qu'elle dit? Behema tovet kochavim. J'attendais cette réaction. Zach. Behema tovet kochavim ou masoy Israël. Si l'animal appartient à un non-juif et la charge appartient à un juif, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que c'est sur ça que c'est écrit Vechadalta. C'est-à-dire quoi Vechadalta? D'accord ? Vecha d'alta, ça veut dire que dans ce cas-là, tu n'es pas tenu de l'aider. Donc, la question de monsieur Aviel, non, Aviel, c'est votre nom ? D'accord ? I amrat tsarbal echaim d'oraita. Si tu me dis que faire souffrir un animal, ça assourd de la Torah, et pas unique, mais c'est pas une interdiction des rabbiniques, mais c'est une interdiction biblique. Amai vecha d'alta. Pourquoi je ne dois pas aider l'animal ? Azov ta azov, je dois l'aider. Qu'est-ce que ça change si l'animal appartient à un juif ou à un non-juif ? L'animal reste le même. Donc de là, a priori, on a une preuve que quoi ? Que faire souffrir un animal, c'est sort de la Torah ou pas ?
Non.
Non ? C'est des rabananes, parce que si ce sera sort de la Torah, on ne devrait pas avoir de différence. Tu me dis, tu suis pas. On ne devrait pas avoir de différence entre un non-juif et un juif. Donc a priori, de cette braïta ici, on aurait une preuve que l'interdiction est rabbinique. C'est pas biblique. C'est une bonne preuve ?
Oui.
Bah non. C'est sûr que c'est une bonne preuve ?
Non, c'est pas la bonne. Non, elle n'est pas bonne.
C'est pas...
Elle n'est pas bonne.
C'est la vie du Tana qui a dit ça.
Elle a l'air bonne.
Ça n'a rien de biblique.
Elle a l'air bonne.
C'est une braïta. Bah oui.
Ça veut dire quoi ? Mais nous, la vie, ce que la braïta nous dit, pour nous, c'est une valeur sûre.
C'est pas Torah. On parlait de ça, de Raïta.
Encore une fois, pas du tout. Vous comprenez pas ce qu'on est en train de dire. Il faut se remettre dans la réalité de l'époque. On a des élèves qui sont en train d'étudier à la yeshiva. Ils n'ont pas de Gemara comme nous. Plutôt. Ils sont en train d'essayer d'avoir des bribes d'informations de différents rabbanim pour savoir
qu'est-ce
qu'elle en pense la Torah de la situation. Une fois qu'on trouve une Braïta qui en parle, pour nous c'est une valeur de la Torah, parce que certainement que la Braïta, elle, a déjà vérifié. C'est sûr, ça.
D'accord, on en a déjà trouvé 5 secondes. Ou 6, je te rappelle.
C'est comme quand on fait les recherches scientifiques aujourd'hui. Là. Dès qu'on trouve un autre scientifique qui a fait la recherche, d'accord, on est sûr que bah, lui, il ne s'est pas trompé, bien que c'est possible qu'il s'est trompé. Non, ça, dans la Torah, ça marche que si on a trouvé une Braïta qui le dit, pour nous, la Braïta a déjà fait la recherche qu'il faut, même si on ne sait pas quelle recherche elle a fait. C'est possible que nous, on ne sait pas comment elle arrive à cette conclusion. C'est pas la question, ça.
On lui fait confiance.
On lui fait confiance. Tout de suite. Sauf si on va mettre en cause la Braïta. Par exemple, on va dire, écoute, il y a une contradiction dans la Braïta, donc de là, on pense que la Braïta a mal été transmise. Donc si elle a mal été transmise, donc du coup, elle vaut rien. Il y a un doute. Mais si la Braïta est valable, même si on ne sait pas comment la Braïta est arrivée à cette conclusion, on considère que c'est cachère. C'est une preuve. Bon. Donc, qu'est-ce que dit cette Braïta, hein ? D'accord ? Qu'est-ce que dit cette Braïta, a priori ?
C'est un goy, on ne fait pas.
On fait pas. Ah, pourquoi tu ne fais pas ? L'animal reste le même ?
L'animal, il souffre aussi.
Je crois qu'il y a une différence, s'il appartient à un juif ou un goy. Donc de là, on aurait une preuve que Tsar Bal Echaim, c'est une interdiction qui est rabbinique, pas biblique. Réponds à la Gemara. Dit, Léolam, en vérité, je veux te dire que Tsar Bal Echaim de Raïta. Ça, je pense pas que vous l'aurez deviné tout seul.
Non, mais rapport à l'animal, oui, parce que tu dois le secourir.
Alors attendez, la question, est-ce que oui ou non ?
Si, non, tu dois le secourir, mais
c'est pas... Souvent, on n'est pas encore dans la halakha, là. Là, on est en train de créer la halakha.
D'accord.
Je ne suis pas en train de parler de la halakha finale. Alors, Léolam... Qu'est-ce que je vais donner comme conclusion ? En vérité, toujours, on va dire que Tsar Bal Echaim, je préfère suivre dans les mots, Tsar Bal Echaim d'Oraita. On va dire qu'en vérité, toujours, Tsar Bal Echaim, faire souffrir un animal, ça sort de la Torah. Ah, si tu me dis que faire souffrir un animal, ça sort de la Torah, comment ça se fait que tu m'as dit qu'il n'y a pas besoin d'aider l'animal d'un goy ? C'est pourtant un animal. Je te dis, en vérité, peut-être qu'on a mal compris. Atam, là-bas, de quoi on parle ? On parle de Teina. Peut-être qu'on a mal compris la Braïta. Peut-être que la Braïta n'a pas dit explicitement qu'elle parlait du déchargement. D'accord ? Elle n'a pas dit explicitement. Elle n'a pas dit du tout. Elle a juste fait appel au pasouk. Puisque la Braïta n'a pas dit explicitement qu'elle parlait du déchargement, moi je vais te dire que de quoi elle parlait la Braïta, dans quel cas j'ai pas besoin d'aider le goy, c'est pour le chargement. Est-ce que dans le chargement il y a une souffrance de l'animal ? Non, puisque la marchandise est à côté, l'animal est debout, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que la Braïta de quoi elle parlait ? Peut-être non, mais peut-être que la Braïta de quoi elle parlait ? Elle parlait du chargement et non pas du déchargement. Donc dans ce cas-là, je sais, vous allez me dire, oui, mais la Braïta n'a pas dit. Ok, donc peut-être qu'elle parle du chargement, peut-être qu'elle parle du déchargement. Donc c'est la technique que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on a déstabilisé la Braïta, il y a zéro preuve.
D'accord, mais c'est pas une preuve que c'est des Braïta.
Non, c'est une preuve ni d'un côté ni d'un autre.
Non, mais il dit quand même que, en vérité, je te dis que c'est une
situation biblique. Oui, donc je peux toujours te dire ça. Donc puisque je peux toujours te dire ça, donc puisque je peux tirer d'un côté comme d'un autre, donc il y a zéro preuve. Parce qu'on a déstabilisé la Braïta. On a montré qu'elle n'est pas claire dès le départ. Donc, puisqu'elle n'est pas claire, donc, zéro preuve. Ah oui. C'est la technique. Si la Braïta est stable, c'est une preuve. On ne peut pas dire « je pense pas comme lui ». Non, pas « je pense pas comme lui », c'est une preuve. Mais si on a déstabilisé la Braïta, on a montré que dès le départ, elle n'était pas claire, puisque la Braïta n'a pas dit explicitement le terme chargé ou déchargé.
Qu'est-ce qu'elle a dit, la Braïta, le terme exact?
Elle n'a rien dit. Elle a dit l'animal d'un non-juif et la charge d'un juif, d'accord? Vechadalta. Vechadalta, ça veut dire que tu t'abstiens. Je m'abstiens de quoi? D'aider à charger ou décharger? Alors nous, on a compris. Ça veut dire aider à décharger. Elle a dit non. Peut-être c'est pas ça ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle parle d'aider à charger.
Pourquoi il rapporte cette Braïta?
Pour amener une preuve, parce qu'on cherche à savoir, est-ce que faire souffrir un animal, c'est assourd de la Torah ou des Chachamim? C'est-à-dire, c'est assourd dans tous les cas.
Non, mais puisqu'elle nous apprend rien, la Braïta.
Très bien, donc on a essayé d'amener une preuve au Beit HaMidrash. D'accord, on a essayé d'amener une preuve au Beit HaMidrash. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu les autres élèves? Ils ont dit, écoute, ta Braïta, elle n'est pas claire. Donc on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Puisqu'on ne sait pas ce qu'elle veut dire, on la met de côté. Peut-être qu'un jour, quelqu'un, il viendra et il nous amènera plus d'informations sur cette Braïta. Mais pour l'instant, on n'a pas de, on n'avance pas. Alors, la Gemara dit, « Iachi, si c'est comme ça, si tu me dis qu'on parle ici donc du chargement, dans lequel, donc dans le chargement, il n'y a pas de souffrance de l'animal qui est impliqué, on est d'accord ?» Oui, dans ce cas-là, j'ai une question. « Et ma sefa, regarde ce qui est écrit à la fin de cette Braïta. » Ça, c'est l'élève qui a amené la Braïta qui dit, « Attendez, je ne savais pas que c'est comme ça. » Je ne vous ai pas encore dit la fin de la Braïta.
Il va donner le compte-gouttes.
Eh oui. Non, il dit, je pensais que vous avez compris, mais là que je vois que vous me cassez, attendez deux secondes. Regardez ce qu'a dit la fin de cette Braïta. Emma Sefa. Là-bas, elle dit, Behemat Israël, si l'animal appartient à un juif, Ve'amas Oy, la charge appartient à Oved Kochavim.
Ah, le contraire.
Le contraire. L'animal appartient à un juif et la charge appartient à un non-juif. Azov, je dois l'aider. Ah, alors c'est quoi le problème ici? Si tu me dis que cette Braïta ne parle pas du déchargement, mais qu'elle parle du chargement, Amaï Azov Tazov, pourquoi je dois l'aider? De toute façon, l'animal, est-ce qu'il y a un risque pour l'animal ici? Non, si tu me dis qu'on parle du chargement, est-ce qu'il y a un risque pour l'animal?
Non, la caméra non. À côté.
Oui. Donc c'est une aide que je donnais pour charger. Mais si la marchandise appartient à un gars, pourquoi je dois l'aider? Il n'y a pas d'obligation. Alors?
Mais c'est ton animal.
Pardon?
C'est ton animal.
Non, c'est pas mon animal.
Non, dans ce cas-là, il parle aussi, c'est l'animal appartient à un juif. À la fin.
Non, c'est pas ton animal.
Pourquoi? D'accord. Donc Amaï, pourquoi je dois aider Amaï Azotazov? N'est-ce pas que c'est Mishum Tsara d'Israël? N'est-ce pas que pourquoi je dois aider? C'est parce que je pense qu'il y a une souffrance d'un juif. La seule souffrance du juif qu'il peut y avoir ici, si je parle d'un cas de encore une fois. J'ai deux options. Ou j'explique qu'on parle d'un cas de déchargement, ou j'explique qu'on parle d'un cas de chargement. Dans le premier cas, tu m'as dit, si l'animal appartient à un non-juif, et la charge appartient à un juif. D'accord? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, j'ai pas l'obligation d'aider. Nous, on a voulu expliquer qu'on parlait du déchargement. Et de là, on voulait apprendre que faire souffrir un animal, c'est pas la sorte de la Torah. Je t'ai répondu, je te dis non. Moi, je vais te dire qu'en vérité, on parle du chargement. Donc, c'est pour ça qu'on te demande pas d'aider l'animal, parce que l'animal ne souffre pas. Alors, il pose la question, il dit, dans ce cas-là, regardons la fin de cette braïta. Qu'est-ce qu'on dit dans la fin de cette braïta? Si l'animal appartient à un juif, et la charge appartient à un non-juif, je dois aider. Pourquoi je dois aider? Je dois aider à faire quoi? À charger ou à décharger?
À charger.
Alors, oui, toi, tu m'as dit à charger.
Oui.
D'accord?
Donc,
tu m'as dit que le début de la Braïta, il parle... Deux secondes. Attendez. Le début de la Braïta, tu m'as expliqué que ça parlait de charger.
Oui.
Donc la fin, forcément, ça parle aussi de charger. C'est la même chose, c'est le même cas, on est d'accord? Si tu me dis que ça parle de charger, comment t'expliques la fin de la Braïta?
Oui.
Pourquoi je dois aider à charger l'animal? Si la marchandise appartient à un non-juif, j'ai pas d'obligation.
Donc tu aides le juif.
Donc j'aide le juif, mais j'aide pas le juif, puisque le juif, son animal n'est pas en danger, son animal est en bonne santé. D'accord? Donc qu'est-ce que vous pensez? Donc de là on prouve que quoi?
Que c'est toujours qu'on parle bien.
Qu'on parle bien du chargement ou du déchargement?
Du déchargement.
Là tout de suite on parle du chargement.
Du déchargement.
Je répète. Très bien, mais si tu me dis qu'on parle du chargement, dans ce cas-là, dans la fin de la variété, ça marche pas. Parce que la fin de la Braïta, si tu me dis qu'on parle du chargement, il n'y a pas de raison. Tu me dis que si l'animal appartient à un juif...
Et l'animal ne souffre pas, là.
Voilà, donc pourquoi je dois aider pourquoi je dois aider à recharger l'animal?
Bon, tu prochain
on aide donc, le juif donc... qui charge l'animal.
Ah non, parce que l'animal, parce que dans ce cas-là, c'est le goy qui est en train de gérer l'animal. Ce qu'on comprend pour l'instant. D'accord? Alors qu'est-ce que tu dis? Toi, tu dis peut-être que... Vas-y, continue dans ta réponse.
C'est le juif qui charge l'animal.
Ah,
c'est le juif.
Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, continue dans ta logique. Tu dis qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore parlé ici, c'est quoi? C'est...
Qui charge.
Qui est le conducteur? Qui est le chauffeur?
Je pensais que c'était le juif.
Donc, qu'est-ce que tu dis dans ce cas-là?
On aide la personne.
Pas même si l'animal n'est pas en train de souffrir, et que la charge appartient à un goy, mais il y a un juif qui est en train de galérer et essayer de charger, peut-être qu'il faut l'aider. Bonne réponse, la réponse de la Gemara. Donc la Gemara, elle dit... Et Achia filo Rechanami. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit non. Elle dit Recha Bechamar Ovet Kochavim, Sefa Bechamar Israël. Elle dit, je vais t'expliquer la différence. D'accord? En vérité, dans les deux cas, on parle du chargement. Chargement, pas du déchargement. Donc c'est pour ça que dans le premier cas de la Braïta, le premier cas de la Braïta qui m'a dit qu'on parlait d'un cas que la charge appartenait aux juifs et la charge appartenait aux juifs et l'animal appartenait aux non-juifs. Est-ce que je dois aider dans ce cas-là est-ce que je dois aider à charger?
Non.
Pourquoi je n'aide pas à charger? Parce que de quoi on parle? On parle dans ce cas-là que le chauffeur c'est un non-juif. Donc c'est pas mes affaires. C'est pas mes affaires, j'ai besoin d'aider à charger. Est-ce que l'animal est en danger? Si je dois aider à charger. L'animal n'est pas en danger, j'ai déjà aidé à décharger. L'animal n'est pas en danger. Le seul risque, c'est quoi? Le seul risque, c'est le propriétaire de l'animal, le chauffeur qui va être là en train de charger. C'est un non-juif, donc j'ai pas d'obligation de l'aider. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'aider, j'ai pas d'obligation. Car si je suis pressé, etc., j'ai pas d'obligation de l'aider. Mais dans la CEPA, de quoi on parle? On parle toujours d'un chargement. Rappelez-vous, dans la CEPA, de quoi on parle? Qui c'est qui va me rappeler de quoi on parle dans la CEPA? L'animal appartient à qui dans la CEPA? Dans le deuxième cas de... L'animal appartient à qui? L'animal appartient à un juif, d'accord? Et le chargement en goy. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? J'ai pas besoin d'aider. Pourquoi j'ai pas besoin d'aider? Non, je dois aider. Pourquoi je dois aider? Tu m'as dit, mais si c'est un chargement, pourquoi je devrais aider? L'animal n'est pas en danger. Qu'est-ce qu'on te répond? Pourquoi je dois aider? D'accord? Parce que le chauffeur est juif. Donc dans ce cas-là, même si l'animal n'est pas en danger, mais le chauffeur est toujours juif. Et le chauffeur est en train de souffrir, il est en train de se casser le dos.
D'accord? À charger.
Pardon?
À charger.
Oui, on n'a pas compris.
À charger.
Oui. On est en train de...
Il se casse le dos à charger.
Oui.
Parce que tu es le juif. Le juif.
Donc là, dans ce cas-là, je dois l'aider. Je peux demander une rémunération pour ça.
On peut lui demander la charge.
Il n'y a pas de problème.
Tu es obligé de l'aider dans ce cas-là?
Oui. Mais je peux demander une
à
rémunération.
Charger.
Oui.
C'est un juif.
Si c'est pas mon ennemi, oui.
Mais si c'est ton ennemi, alors ça marche pas?
Non, j'ai pas besoin.
Non, mais là, ça marcherait pas alors.
Qui t'a dit que c'est ton ennemi?
Et qui t'a dit que le contraire?
Ok. Donc on va dire, moi je peux te dire qu'on parle de ça. Encore une fois, on est dans des hypothèses ici.
Mais c'est vrai qu'il faut préciser.
Non, mais quand tu me dis que si on voit un cas où ça marche pas,
oui.
Donc dans le cas, c'est le juif, c'est un ennemi, donc il n'est pas obligé de l'aider.
Si on voit un cas où
ça marche pas.
Ça veut dire quoi un cas où ça marche pas?
Donc là, ça marcherait dans le cas de charger, si c'est un juif qui est ton ami. Donc si c'est un juif qui n'est pas ton ami, t'es pas obligé.
De toutes les façons, on est encore dans l'hypothèse là. C'est-à-dire déjà, on a déstabilisé la Braïta. N'oubliez pas ce qui s'est passé.
Oui, mais ça marche plus la Braïta.
Il y a un élève qui est venu, imagine-toi que je viens en Beth Amidrash, j'amène une Braïta. Oui. Vous tous m'avez déstabilisé. Vous m'avez dit non, ta Braïta qui t'a dit qu'elle parle de chargement, déchargement, qu'elle parle de chargement. Moi je me défends. Je me dis non, mais regardez la fin de la Braïta. De la fin de la Braïta, je vous prouve qu'on parle du déchargement. D'accord? Vous allez me répondre, vous allez me dire non. On peut t'expliquer que la fin de la Braïta aussi parle du chargement. Ah, pourquoi il faut l'aider? Si la charge appartient à un non-juif. Parce que parce que le problème ici n'est plus l'animal, mais le problème peut être le propriétaire. L'animal. Donc encore une fois, mais c'est toujours pas des preuves, c'est des hypothèses. Donc on n'a aucune preuve, ni pour dire que Tsar Balechaim c'est la Torah ou pas. C'est les élèves qui sont en train de me répondre, sont en train de me dire, on n'a pas de preuve puisqu'on peut expliquer comme ça.
On n'a pas de preuve.
On n'a pas de preuve. Donc zéro preuve.
On n'a même pas de preuve que c'est chargé.
On n'a rien, on n'a aucune preuve. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, oui, mais c'est quoi cette histoire? Tu me dis, le début de la Braïta, il parle que le chauffeur est goy, et la fin de la Braïta, il parle que le chauffeur est juif. C'est facile de jongler comme ça, mais... Qu'est-ce qui te pousse à dire que le début il parle d'un chauffeur goy et la fin il parle de chauffeur juif? Il m'a posé la question, il m'a pas sac.
Ouais, elle est bizarre cette Braïta.
C'est bizarre, c'est quoi cette histoire?
Moi, le juif, il a volé l'âme du goy.
C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui te pousse à dire que le début de la Braïta il parle d'un chauffeur goy et la fin de la Braïta il parle d'un chauffeur juif? Et que c'est pour ça qu'au début de la Braïta je dois pas aider, j'ai pas l'obligation d'aider, mais à la fin je dois aider. Attends.
Et qu'est-ce qui te prouve du contraire aussi?
Très bien, mais qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Il faut quand même un élément de preuve. La Gemara a dit Istama de Milta, puisqu'en général, Inish Batar Khamra Azil. Un homme suit son âne. Dans la logique, dans la normale des choses, un homme suit son âne. Donc si dans la Récha on parlait d'un animal d'un non-juif, certainement c'est qui le chauffeur? C'est le non-juif. Dans la CFA qu'on parle d'un animal qui appartient à un juif, certainement que le chauffeur c'est qui? Il ne veut pas qu'on lui tue sa voiture, d'accord? C'est qui le chauffeur?
Il est devant.
C'est le juif, il est là. D'accord? C'est lui le chauffeur. Sauf qu'il a une charge. Il prend la charge du non-juif. Il fait une course, c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est logique, la Gemara dit, c'est logique de dire que le premier cas, il parle que on parle d'un animal qui appartient à un non-juif, donc certainement le chauffeur est un non-juif, donc j'ai pas l'obligation d'aider à recharger. J'ai pas d'obligation, je peux partir, si je suis pressé par exemple. Le deuxième cas, de quoi il parle? Le deuxième cas, il parle d'un cas où l'animal appartient à un juif, et certainement le chauffeur est juif, et même si la charge est déjà déchargée, j'ai l'obligation d'aider. Pourquoi ? Puisque là, dans ce cas-là, j'aide plus l'animal, l'animal est en bonne santé, mais j'aide le juif.
Voilà. Enfin, excuse-moi, mais tu peux très bien avoir un juif qui loue des ânes à des non-juifs.
Peut-être, c'est vrai.
Ce serait logique.
Mais la Gemara a donné une bonne réponse. La Gemara dit que par défaut, une personne suit son âne. C'est vrai.
S'il est prêté, s'il est loué, non.
Non, par défaut, on parle pas d'une voiture, on parle pas des voitures de location ici.
Ben pareil, un âne de location.
On parle d'un animal qui appartient à un juif.
Visiblement, l'âne, il s'est loué parce qu'il était loué avec le conducteur.
Ouais, ça c'est une supposition, ça.
Non, c'est ce que la Gemara te dit. Elle te dit, par défaut, un homme partait avec son âne. Il laissait pas son âne, parce qu'un âne, ça peut s'abîmer très rapidement. Tu comprends ? Tu le prêtes, c'est pas ce qui va se passer. Tu sais combien les voitures de location, combien de temps elles tiennent ? Combien de kilomètres elles font ? En moyenne.
Revendu au bout d'un an et demi.
Combien de voitures, combien de kilomètres elles font ?
Non, ça peut varier.
50-60 000 kilomètres.
C'est en Israël, ça.
20-30 000.
30 000 aux États-Unis.
30 000. En France, 30 000. Maximum 30 000.
Et moi, aux États-Unis.
En Israël, ils vous refilent des voitures à 60 000 kilomètres.
Aux États-Unis, j'ai loué une voiture neuve. Et c'est kilométrage illimité. Heureusement, j'ai fait tout le tour des États-Unis avec mes parents, tout ça et tout. Je l'aurais rendu avec 25 000 kilomètres de plus. Oui. Et le gars, quand je lui ai ramené, il m'a dit, celle-ci, on va la mettre en vente.
Ouais.
Ah oui. À peine 6 mois, il y avait 10 000 km, moi j'ai rajouté 25 000. Il appelait même le chef.
Vous voulez pas l'acheter, vous ?
Il a fait 25 000, je dis quoi, vous allez m'offrir le champagne ? Tu sais, non, il m'a dit ça, en tout cas, cette voiture, on la vend.
Ah non, c'est clair.
Tu peux les faire aux
États-Unis. Parce que ça abîme.
En un mois et demi.
Ça abîme. En général, un propriétaire ne veut pas prêter son animal.
Dans le cas de la voiture, c'est le contraire.
C'est quoi ?
C'est que plus tu roules, moins c'est.
Moins c'est ?
Moins elle s'abîme.
Non, mais oui, mais quand c'est... Mais eux, les locations, ils ne peuvent pas... Comme...
Ceci étant, ton argument, franchement, je ne trouve pas...
Non, mais c'est des hypothèses,
non,
ça.
Non, si l'âne il appartient à un juif, alors le conducteur, il est juif. Je suis désolé. Il a besoin d'argent, il prête son âne.
Mais par défaut, on te dit, encore une fois. Mais...
On fait pas par défaut, puisqu'on cherche un cas où ça
mais
marche
non,
pas.
Non, encore une fois. Là, on est dans l'hypothèse des autres élèves qui sont en train de me répondre. Ils sont en train de me dire, on peut t'expliquer que la vérité, elle parle de ça. Donc, puisqu'on peut t'expliquer, donc du coup, ta vérité ne tient pas. Comment on peut t'expliquer ? Il m'explique que, par défaut, le propriétaire, c'est son animal. Donc dans ce cas-là, je vais t'expliquer que qu'est-ce qui a fait la différence entre la récha et la sefa. C'est pas la souffrance de l'animal, c'est ni le juif et le non-juif, c'est tout simplement le chauffeur. Ça veut dire que pourquoi tu t'es focalisé sur l'animal ? L'animal, ça ne change pas s'il appartient au juif ou goy. Parce que de toutes les façons, moi je vais te dire qu'on parle du chargement. Ah, pourquoi il y a une différence entre la récha et la sefa ? C'est ce que t'as mal compris. Toi, t'as voulu te focaliser sur l'animal. Moi, je dis pas du tout. Le problème ici n'est pas l'animal. Oublie l'animal. Disons qu'il n'y a pas d'animal ici. De quoi on parle ? Ce qui nous dérange ici, c'est le propriétaire. Si le propriétaire est juif, j'ai l'obligation de l'aider. C'est une mitzvah de la Torah de l'aider. Si je vois qu'il n'arrive pas à porter sa charge. Peu importe si c'est un animal, une voiture ou une maison. D'accord ? Je vois quelqu'un qui est en bas des escaliers, il n'arrive pas à porter sa charge. J'ai la mitzvah de l'aider. C'est la même mitzvah. J'ai pas le droit de le laisser sans l'aider. D'accord ? Donc c'est ce que nous dit la Gemara ?
C'est ton ami.
D'accord. Oui ? C'est ton ami, je vais pas le laisser.
Moi, la seule chose qui me gêne dans cette marloquette, les Shem Shamaim, bien sûr, ce qui me gêne, c'est pourquoi dès le départ, il n'annonce pas tout. Il dit, bon, c'est un âne qui appartient à un goy, c'est un âne qui... Pourquoi il faut...
On parle d'une discussion dans le Beit HaMidrash. Ils amènent un élément de preuve, d'accord ? Et pour l'élève qui a amené l'élément de preuve lui paraissait sûr. D'accord ? Il lui paraissait un très bon élément de preuve. Et les élèves lui répondent, ils disent, ton élément de preuve n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon ? Parce qu'on a telle et telle question. On peut expliquer que ça parle de ça et ça. Donc puisqu'on n'est pas bon, donc du coup on peut pas donner aucune preuve de ça. Ni que faire souffrir un animal, ça sort de la Torah, ni que faire souffrir un animal, ça sort de Rahamim. Ni qu'on parle de chargement, ni qu'on parle de déchargement. Puisque j'ai deux hypothèses. Je peux t'expliquer qu'on parle du déchargement, comme tu as dit, mon cher élève. Mais je peux t'expliquer aussi qu'on parle du chargement. D'accord. Et que la différence entre le premier cas et le deuxième cas de la Braïta ne serait pas... En ce qui concerne l'animal, ne concernerait pas l'animal, mais concernerait le propriétaire de l'animal. Donc puisqu'on d'accord. peut expliquer ça, donc du coup j'ai pas de preuve.
D'accord.
On peut expliquer ça, j'ai pas dit qu'on peut expliquer comme
d'accord,
ça.
D'accord, j'ai compris.
Pas oublier ça.
Annie, j'ai une question.
Oui.
Ah. On dit que... Ouais, je peux...
Stop. Un biscuit là parce que...
C'est un verset de la Torah qui nous dit quand tu verras la bête de ton ennemi crouler sous sa charge, tu as l'obligation de la décharger.
Oui.
D'accord. Ensuite on dit, si c'est pour la recharger, si c'est ton ennemi, tu n'as pas l'obligation.
Oui.
Est-ce que de là on ne peut pas déduire qu'on parle bien de l'animal et que par conséquent, c'est la preuve irréfutable que quand la Torah elle parle du déchargement, elle parle bien de l'animal et pas du propriétaire.
On a posé cette question la semaine dernière. Vous ferez la Khazara. Vous le verrez dans la Khazara. C'était la troisième question de la semaine dernière.
Et qu'est-ce qu'on a répondu?
Vous verrez. Je ne vais pas vous répéter.
Je ne vois pas d'issue là.
Si vous le répétez, je n'étais pas là.
Vous verrez dans la Khazara. Juste avant. Juste avant, c'est la page d'avant.
Je ne vois pas d'issue là.
On en a parlé. Tu te rappelles, Yaakov? Bon, si vous ne vous rappelez pas, vous verrez dans la Khazara.
C'est le Tanaïm, tu vas parler l'issue de Tanaïm, non?
On verrait dans la Khazara. D'accord, il y avait deux questions autour de ça. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est la deuxième et la troisième. Là, on est déjà dans la sixième. La sixième preuve qu'on a repoussée aussi.
Ça manque de hasard.
Bon. Alors, maintenant, la Gemara pose une question que j'attendais que vous posiez, mais que vous n'avez pas posée.
Excuse-nous. Hein.
On va reprendre la Braïta. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Je reprends dans les mots. Tashma. Vous reprenez un peu, quelques lignes plus tôt, là. Reprenez 32b3. On va relire dans les mots la Braïta. Tashma, viens, écoute, la Braïta, vous voyez, 32b3, à la fin de la page. Où on a commencé?
32b4 en haut.
Ah oui, d'accord, bon, ça, vous pouvez commencer 32b4 en haut, oui. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Bema tovet kochavim, si l'animal appartenait à un non-juif, ve'amasoy, d'accord, ou masoy Israël, et la charge appartient à un juif. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, dans ce cas-là, ve'chadalta.
Ve'chadalta.
Ah, Vechadalta, ça veut dire quoi? Traduction, comment vous traduisez là-bas Vechadalta?
Tu peux t'abstenir.
Tu peux t'abstenir, très bien. Mais le terme Vechadalta, c'est pas un terme que la Braïta a inventé. C'est un terme qui est tiré d'un pasouk. Qui est tiré de quel pasouk? Alors vous prenez, attendez, vous prenez dans la gauche, vous prenez dans la, donc dans le côté Gemara, prenez dans le côté Gemara, Torah Or HaShalem, je sais pas c'est où.
Allez, quatrième...
Voilà, ici, la Torah Or HaShalem, hein, référence numéro 1. Le fameux pasouk qui parle de Vechadalta. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi revêt tachat masao en train de crouler sous sa charge. Vechadalta me azovlo, d'accord? Et est-ce que tu ne vas pas l'aider? Azov ta azovimo, tu devras l'aider. De quoi il parle le pasuk ici? Du chargement ou du déchargement?
Du déchargement.
Du chargement.
Du déchargement, bien sûr, puisqu'il a croulé.
Très bien. Maintenant, la braïta. La braïta. Quand elle a dit le terme Vechadalta, d'après vous, elle fait appel à quoi, Vechadalta?
Le déchargement, pareil.
Elle fait appel au pasouk qui dit Vechadalta. Le pasouk qui parlait clairement de quoi? Du chargement ou du déchargement? Du déchargement. Donc de là, j'ai une preuve que de quoi elle parlait la Braïta? Du déchargement. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Que si l'animal appartenait à un non-juif, j'ai pas l'obligation d'aider. Donc du coup, j'ai une preuve que faire souffrir un animal, est-ce que c'est une interdiction biblique ou rabbinique?
Rabbinique.
Rabbinique?
En tout cas, pas biblique.
Toi, la seule réponse que les élèves ont répondu à, que les autres élèves ont répondu à l'élève qui a présenté la Braïta, ils lui ont dit, nous on peut t'expliquer que la Braïta ne parle pas du déchargement. C'est-à-dire ta preuve serait bonne si on parle du déchargement, mais nous on peut t'expliquer qu'elle parle du chargement. Donc, on va poser la question, mais comment ils ont pu accepter, comment ils ont pu penser comme ça, mais je comprends pas. Mais la Braïta, elle a dit le terme Vechadalta. Ce terme Vechadalta, il fait appel à un pasouk. Un pasouk qui parle de quoi?
Du déchargement.
Donc c'est évident qu'on parle du déchargement. Pourquoi on se perd dans des détails alors que c'est clair?
Je suis pas clair.
C'est évident.
Parce que tu prends un mot
cramponné
dans une autre phrase, que tu parles de la phrase de l'autre phrase.
Mais non, parce que le terme Vechadalta, c'est un terme qui n'existe pas dans la Gemara. Ça veut rien dire. Dire Vechadalta comme ça, ça veut rien dire. C'est clairement une citation. Ça c'est sûr, ça. C'est une citation. Ça n'existe pas. Dans les mots, ça veut rien dire sinon. Je suis traduit. Vechadalta, tu t'abstiendras, ça veut rien dire. Ça rentre pas dans le cadre de la Gemara. C'est évident que c'est une citation. Donc c'est la question que la Gemara elle pose. Elle dit, mais je comprends pas. Elle dit, Veha. Donc je reprends la Gemara maintenant. Veha. Vous prenez la Gemara. Je sais quelle page, où on en est?
On est à
32B5.
Veha, c'est là.
32B5, reprenez 32B5.
32B5 au milieu, à gauche.
Tout dans tous les sens, hein.
Et pourtant.
Mara dit, mais veha, pourtant. Vechadalta, veazov tazov. Ah oui, parce que je ne vous ai même pas montré. Mais dans le deuxième cas de la Braïta, là-bas, à quoi il fait appel quand il dit qu'il faut aider le juif? Il dit azov tazov. Aussi, azov tazov, il fait appel au verset qui parlait du déchargement.
Oui, est-ce donc, que tu ne vas pas l'aider si tu l'adores?
D'accord. Donc, il dit, mais je ne comprends pas. Veha, mais vechadalta, veazov tazov, biprika ou d'activer? Mais les deux versets, les deux citations que la Braïta a fait, la citation pour le non-juif qui a dit que Vechadalta, je peux m'abstenir, et la citation pour le juif qui dit Azov ta Azov, d'où elles sont tirées ces citations? Du verset qui parle du déchargement. Donc c'est évident qu'on parle du déchargement. que vous êtes en train de vous perdre dans la logique. C'est évident, c'est clair. C'est limpide. Mais frika ou d'équivé ? Ça parle du déchargement. D'accord ? Donc dès là, on est obligé de dire, on est obligé de faire un pas en arrière. On est obligé de dire que la braïta ici ne parle pas du chargement comme ce qu'on voulait dire. Nous, on a expliqué que la braïta parlait du chargement et que la différence serait si le chauffeur est juif ou goy. Qu'on a expliqué. Et que dans le chauffeur juif, j'ai l'obligation d'aider. Le chauffeur non juif, j'ai pas l'obligation. Si je suis pressé, je peux partir. D'accord ? Puisque la Gemara nous amène cette preuve ultime de Vechad Altei, Azov Ta Azov, donc on est obligé de dire que de quoi on parle ? On parle du déchargement.
Et donc ?
Et donc, dans ce cas-là, a priori, retour à la case départ, on a une preuve que...
C'est des Rabbanan.
Parce que sinon, il n'y a aucune raison de dire que je ne dois pas aider l'animal d'un non-juif. Voilà. Alors la Gemara dit... D'accord, Amar, là, il lui a répondu... Quand on dit, il lui a répondu...
C'est un serpent qui se mord à la queue, là. On est revenu sur la...
On est revenu à la case départ. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, c'était pour rien. On a fait une hypothèse avec le chargement, on a avancé, mais
on
là...
On a même recité une Boraïta qu'on a déjà citée. Qu'est-ce qu'il va le dire, là ?
Amar, là, il lui a dit... Donc il lui répond, il lui dit... En vérité, je vais toujours te dire que la Boraïta qui fait la différence donc, entre le juif et Goy, et tu as raison, elle ne parle pas du chargement, tu as raison, elle parle effectivement du déchargement. Ah, alors dans ce cas-là, c'est quoi la question que tu vas me poser ? La question que tu vas me poser, c'est que qu'est-ce qu'il nous a dit Rava au début de la Gemara qu'on a fait il y a 2 semaines ? Qu'est-ce qu'il nous a dit Rava ? Rava, il nous a dit que ce soit selon Chachamim et que ce soit selon Rabbi Shimon, d'après tous les avis, faire souffrir un animal, c'est sort de la Torah. Or, a priori, d'ici on aurait une preuve que faire souffrir un animal, c'est pas la sort de la Torah. Alors moi, qu'est-ce que je vais te répondre ? Amani, cette vraïta appartient à qui ? Rabbi Yossi Agili. Cette braïta appartient à Rabbi Yossi Agili.
Celui qui avait contredit au départ.
C'est quoi ? De Amar qui a dit Tsa Balechaim lav d'oraïta. Tu as raison. Tu as raison que cette braïta-là, apparemment, elle dit qu'elle, de cette braïta, on comprend clairement. Donc tu as réussi à me la stabiliser. Tu as réussi à me prouver clairement que faire souffrir un animal, c'est pas la sorte de la Torah. La preuve, tu m'as dit clairement que j'ai pas l'obligation d'aider l'animal d'un non-juif à te décharger. Donc c'est clair, faire souffrir un animal, c'est pas la sorte de la Torah. Ah, mais pourtant Rava a dit le contraire. Rava a dit qu'a priori tout le monde serait d'accord que faire souffrir un animal, c'est la source de la Torah. Alors voilà, j'ai une contradiction ici. Je dis non. Cette braïta appartient à qui ? Cette braïta a été dite au nom de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili qui avait dit plus tôt, enfin on l'avait étudié plus tôt, qui avait dit que faire souffrir un animal, c'est pas la source de la Torah. Donc on est retourné encore plus à la case départ. C'est-à-dire que là, pour l'instant, bon, apparemment, c'est Marloquet de Tanaïm, c'est Marloquet déjà depuis l'époque de la Mishnah. Et la braïta qui nous a fait cette différence-là ici, bah apparemment, c'était un Beit Midrash qui suivait la vie de Rabbi Yossi Aglili. Donc du coup, encore plus, j'ai encore moins de preuves. Pas de preuves. Là, j'ai 0 preuve, parce que du coup, bon, on te dit, bah, cette braïta, elle suit cet avis-là, bon. Et moi, je fais quoi, maintenant ? Donc on sait toujours pas. D'accord ? On sait toujours pas comment penser. Mais apparemment, Rava, ce qu'on a compris depuis le début de la Gemara, c'est que Rava s'était acharné pour dire que tout le monde est d'accord que Tsar Balechaïm, c'est la source de la Torah. Là, a priori, la Gemara a cassé Rava. On a amené, chaque fois qu'on a essayé de donner une preuve pour conforter l'avis de Rava, chaque fois on a montré que non, on peut expliquer qu'il y a un avis qui n'est pas d'accord, ou que la vraie n'est pas claire, etc. Donc du coup, on ne sait pas d'où Rava a tiré ça, de sur quoi Rava s'est basé, lorsque Rava a dit « tout le monde est d'accord que faire souffrir l'animal, c'est sur de la Torah ».
A priori, il n'y a que lui
qui est d'accord.
Oui.
Voilà, il y a des avis contraires.
Mais il a amené son avis sur quoi il s'est basé, non ?
Rava n'est pas là.
Il a expliqué.
Ben non, justement.
Il n'est pas là, Rava.
Il a dit.
Et nous, on ramène ce que Rava a dit. On essaie de comprendre. On dit Rava, c'est un grand sadique, certainement, qui savait de quoi il parlait, mais on ne comprend pas.
Mais là, cette braïta, elle nous montre la... Elle nous apporte la preuve que...
Que faire souffrir un animal, c'est...
C'est les Rahamim.
Sauf que qu'est-ce qu'a dit la Gemara ? On sera obligé de dire que la seule part de sortie qu'on a, c'est de dire que cette braïta suit la vie de Rabbi Yossi Aglili. C'était un Beit Midrash qui suivait l'avis de Rabbi Yossi Aglili.
Mais qu'est-ce que ça change ?
Rien. Ça change rien du tout. Ça change qu'il y a un avis. Rabbi Yossi Aglili, on a dit, c'était un avis qui pensait que faire souffrir un animal, c'est pas la source de la Torah.
Ouais.
Donc du coup, on n'a pas de preuve. Rava, lui, voulait nous amener une preuve que tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, la halakha est comme ça. Non, pas de preuve.
Ah.
D'accord. Tashma, viens écoute. On va essayer d'amener encore une preuve. On en est à la 7e preuve. 7e preuve pour amener une preuve, que faire souffrir un animal, c'est pas la source de la Torah. Tashma, viens écoute. Dit comme ça, c'est intéressant.
C'est une autre braïta.
Toujours une braïta. Les Mishnayot, on les a écoulés. Pour l'instant, on a écoulé les Mishnayot. Ah non, là, on n'a pas de preuve.
Il ne faut pas nous faire souffrir.
Et pourquoi c'est pas une preuve?
Parce que on peut dire que c'est la vie de Rabbi Yossi Haglili. Si c'est la vie de Rabbi Yossi Haglili, il n'y a pas de preuve.
Pourquoi? Parce que... Pourquoi il n'est pas crédible?
Pourquoi? Si, il est crédible, mais puisqu'on ne sait pas cette braïta appartient à qui, c'est une hypothèse qu'on a dit. Peut-être que cette braïta appartient à Rabbi Yossi Haglili. Donc dans ce cas-là, ni ça conforte, ni ça déconforte Rava.
On revient au début.
Cette braïta ne forme pas de preuve, puisqu'on peut expliquer, on peut dire que cette braïta suit l'avis de Rabbi Yossi Haglili, et donc Rabbi Yossi Haglili, c'est encore un autre avis qui ne suit même pas notre Mishnah. Donc du coup, il n'y a pas de preuve, quoi. C'est même pas notre avis.
Parce que moi, je pensais que si on amenait une braïta qui prouve la chose,
oui,
c'était bon.
Ah, tu dis non.
Ils avaient la preuve.
La preuve, on te dit pas du tout. Ça aussi, c'est pas une preuve, puisqu'on peut expliquer que cette braïta appartient à Rabbi Yossi Haglili. Donc si elle appartient à Rabbi Yossi Haglili, il n'y a pas de preuve.
Donc une preuve, ce serait quoi? Ce serait une braïta qui appartient à
une preuve, ce serait, on veut des noms.
Hein?
On veut des noms.
Témoins, des photos.
Tashma, viens, écoute.
Les mots oculaires.
D'accord. Hein. Oh. Qu'est-ce que je passe? Vous n'avez pas compris.
Non, je comprends le concept.
Oculaire.
On a dit qu'une braïta, c'était quelque chose de prouvé.
Oui.
Par conséquent, c'est une preuve. Donc si on ramène une braïta, donc si elle existe, c'est qu'elle a fait ses preuves.
Nous, ce qu'on a...
Et qui vient nous...
Tu n'as pas dit qu'est-ce que c'est qu'une braïta?
Non. Si, si, non, j'ai compris sa question. Nous, au début de la Gemara, et ce qu'on a fait il y a deux semaines, on a expliqué que Ravad... Que ce soit selon Rabbanan ou que ce soit selon Rabbi Shimon, les deux avis, les deux protagonistes qui étaient dans notre Mishnah, que ce soit selon Rabbanan ou que ce soit selon Rabbi Shimon, les deux pensent que faire souffrir l'animal, c'est la source de la Torah. Comme ça, Rava a dit. D'accord ? Donc nous, maintenant, on essaie de comprendre ce que Rava veut dire, d'où Rava a tiré ça. Donc on a essayé d'amener une braïta pour essayer de prouver le contraire. D'accord ? Et qu'est-ce qui te répond Rava ? On te dit non, Rava te répondra que cet avis, même si tu m'as amené une braïta, que cette braïta, a priori, on prouverait que faire souffrir l'animal, c'est pas la source de la Torah, c'est une interdiction rabbinique, d'accord? Mais Rava te répondra que cette braïta-là suit l'avis de Rabbi Yossi Haglili. Donc ça ne contredit pas ce qu'il a dit. Lui, Rava a dit, que ce soit selon Rachamim ou que ce soit selon Rabbi Shimon, les deux pensent que faire souffrir un animal, c'est la source de la Torah. Maintenant, Rava n'a pas parlé de Rabbi Yossi Haglili, puisque Rabbi Yossi Haglili n'était pas un des protagonistes de notre Mishnah. Donc Rava te répondra, il te dira, c'est vrai que dans la braïta ici, c'est écrit clairement que faire souffrir l'animal, bah, apparemment, c'est pas la source de la Torah. Mais moi, je vais t'expliquer que cette braïta, de quoi elle parle? Cette braïta, elle suit la vie de qui? De Rabbi Yossi Haglili. Donc, ça ne contredit toujours pas ce que j'ai dit. Moi, je dis que Rabbi et Rabbi Shimon sont d'accord que faire souffrir l'animal, c'est la source de la Torah. Cette braïta-là, puisque c'est un no-name, bah, je vais te dire que cette braïta-là, c'était des Rachamim qui suivaient la vie de Rabbi Yossi Haglili. Donc, du coup, j'ai pas... Ça ne me part avant en déconfort ici. Ça va être tranquille.
D'accord, mais. Non, mais. D'accord. Mais sa braïta, lui, sur quoi il appuie?
Qui? Non, ça c'est pas nos affaires. Nous, il suffit d'avoir une preuve de que quelqu'un l'a dit. Après, c'est pas nos affaires sur quoi il s'est basé, lui. Peut-être que Mara posera la question.
Après.
C'est ce que j'ai dit au début du cours.
Haglili.
D'accord.
On s'en fout.
Une fois qu'on a une braïta qui l'a dit, peu importe c'est quoi la raison de cette braïta. Après, peut-être que Mara posera la question, peut-être. Elle dira, mais pourquoi la braïta? C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura une bonne preuve, peut-être que Mara dira, mais finalement, pourquoi la braïta a dit ça? Peut-être qu'elle trouvera la réponse, peut-être qu'elle ne trouvera pas.
Et comment il a fait pour savoir que...
Voilà.
On considère que
ça, c'est encore une autre étude. La première étude, c'est de trouver la bonne braïta. De trouver la bonne preuve.
On considère qu'elle est cachère.
D'accord. Quoi qu'il en soit. Une fois qu'on a trouvé une bonne braïta, après peut-être si la braïta ne nous a pas dit explicitement la raison, on cherchera à comprendre ce que la braïta a dit. Mais c'est pas parce qu'on ne comprendra pas ce qu'elle a dit, c'est pas parce qu'on n'aura pas la... On ne sait pas d'où elle a tiré ce qu'elle a dit, qu'on dirait que c'est faux. D'accord. C'est important à comprendre. Je sais pas comment ça marche dans la science.
On va plus loin puisqu'on...
Quand on cherche une preuve dans la science, il faut que la preuve s'explique aussi.
Non mais Béril, on va plus loin puisqu'on ne dit pas que...
Si elle ne s'explique pas, ça vaut rien.
Ah bah non, c'est même pas édité.
Dans la Gemara, c'est pas comme ça.
Béril,
dans la Gemara, juste une seconde. Dans la Gemara, il faut trouver une preuve. Ça, c'est un premier élément. Après, une fois qu'on a trouvé la preuve, il faut essayer d'expliquer la raison pourquoi dans la preuve on a dit ça. Mais si t'as trouvé, tant mieux. T'as pas trouvé, tant pis. Pas grave, c'est de notre faute, le problème n'est pas chez eux, le problème est chez nous.
Mmh. Parce que sinon, dans la braïta, pour confirmer, on confirme qu'elle est cachère, qu'elle est bonne, on ne confirme pas même que c'est pas faux ou faux.
Oui.
Non, on dit carrément qu'on la considère.
Ah oui, elle est cachère, non, elle est bonne la braïta.
Donc on va plus loin quand même.
Mais si Rava il dit que les autres ils pensent que c'est des braïta, le fait de ne pas faire souffrir l'animal, c'est-à-dire qu'ils ont des preuves.
Bien sûr,
de braïta.
Mais Rava n'est pas là.
D'accord, bon, d'accord, mais admettons,
oui.
Ils ont des preuves. Donc cette braïta, elle n'a pas de raison d'être.
Oui, mais la question qui se demande au Beit HaMidrash, c'est est-ce que Rava avait tous les éléments de preuve?
Il s'est peut-être trompé.
Ah oui, Rava s'est peut-être trompé, donc on veut comprendre ce que Rava a dit. Sur quoi Rava s'est basé?
Rava, il a dit les autres, ils pensent que...
Rava a dit, moi d'après moi, Rachami, mais Rabbi Shimon...
Il adore les animaux, c'est un type très sensible, donc, il va...
Non, on est sûr que Rava avait sa preuve. C'est pour ça que c'est une bonne question ce que vous posez, c'est une bonne question ce que Jacob pose. C'est possible qu'à la fin de la Gemara, si on n'arrivera pas à comprendre d'où Rava a tiré, c'est possible qu'on dira, bah quand même, puisque Rava l'a dit, on le garde. Parce qu'il l'a dit.
Mais la Braïta n'est fausse.
Mais là, nous, on essaye de d'expliquer ce que... Non, la Braïta n'est pas fausse. Qu'on peut expliquer que la Braïta suit la vie de Rabbi Yosef Glili. Donc ça ne met pas en déconfort Rava. Rava,
si,
lui...
Parce que si Yosef Glili pense que c'est des rabbanan.
Mais Rava a dit, encore une fois, Rava a dit que, d'après moi, Chachamim et Rabbi Shimon sont d'accord que faire souffrir l'animal, c'est source de la Torah. Rava n'a pas parlé de Rabbi Yosef Glili. Ça ne dérange pas Rava que Rabbi Yosef Glili n'est pas d'accord.
Pas qu'il existe.
C'est pas la question. Sur le fond du problème.
Oui.
Si c'est des Orestas, c'est pas des Rabbanan. Sur le fond du problème.
Bien sûr,
tu peux pas avoir les deux. C'est un qui est faux. Bah,
c'est Marloquet.
Si une Braïta l'amène une preuve que ce que Rava, lui, il cherche à expliquer, à conforter sa position en disant qu'il pense que c'est de la Torah,
oui.
Qu'en contrepartie, dans une autre école, il y a une preuve irréfutable que
non, y a,
que
c'est, que dans, c'est le contraire. Dans cette Braïta, il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve dans cette Braïta.
C'est parce qu'on a dit qu'on parle du déchargement.
Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune preuve dans cette Braïta. On a énoncé un avis, c'est tout. On a amené une preuve que la Braïta parle d'un certain cas. Mais la Braïta elle-même n'a amené aucune preuve.
Bah, on a vu que c'était un déchargement et que si,
on, a vu.
Si on parle d'un...
Oui, on a vu. Mais c'est la Braïta qui a dit.
Ouais, mais c'est pas une preuve,
mais ça nous engage en rien ce que la Braïta a dit. Parce que si on dit que la Braïta suit la vie de Rabbi Yosef Glili, bah suit la vie de Rabbi Yosef Glili, ça nous engage en rien.
Mais pour nous, on cherche à savoir, c'est pas une preuve pour nous, c'est
pas du tout.
Elle n'est pas irréfutable.
Non.
Pourquoi?
Parce que si on dit que la Braïta suit la vie de Rabbi Yosef Glili, donc Rava va toujours bien. Puisque Rava a dit, d'après moi, Rabbanan et Rabbi Shimon sont d'accord que faire souffrir l'animal, c'est sur de la Torah. Ouais. Ah, il y a cette Braïta, bah, je dirais que cette Braïta suit la vie de Rabbi Yosef Glili. Donc j'ai pas de question.
Ouais, mais la Braïta, elle vient en opposition à la...
Et c'est pas grave.
D'après ce qu'on cherche.
Mais... Oh, mais c'est... Si elle suit la vie de Rabbi Yosef Glili, ça ne met pas en déconfort Rava. Rava ne s'est pas mêlé à Rabbi Yosef Glili. Rava peut certainement qu'il savait la vie de Rabbi Yosef Glili. Mais lui, Rava a simplement dit quelque chose. Il a dit, dans notre Mishnah, il y avait deux protagonistes. Rabbanan et Rabbi Shimon. D'accord? Ces deux protagonistes pensent que faire souffrir un animal, c'est sûr de la Torah. Nous, on cherche à comprendre d'où Rava, il sait ça. On a amené une Braïta qui dit le contraire. On te dit, non, cette Braïta ne dit pas le contraire. Cette Braïta, elle suit la vie de Rabbi Yosef Glili. Donc Rava, ça ne le concerne pas, ça. Donc, il faut chercher des preuves, des avis qui parlent de soit Rabbanan, soit Rabbi Shimon. Et là, ça pourrait être...
J'ai compris. Mais la question, elle est pourquoi, quand on a une preuve qui est donnée, une preuve irréfutable...
Mais non, encore...
J'ai compris.
Non, vous êtes... Encore une... J'ai compris votre question.
Comprenez...
On n'a pas amené de preuve ici que face au frère animal, c'est sur la Torah. On a amené une preuve que la Braïta parle de ce cas-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Je répète, j'expliquais. Imaginez-vous
qu'il y a un rave. La preuve, c'est la même chose.
Non, pas du tout, je donne un exemple. Imaginez-vous qu'il y a un rave qui rentre ici au Beth Amidrash. Vous posez une très bonne question. Imaginez-vous qu'il y a un rave qui rentre ici au Beth Amidrash. Il rentre ici et il nous balance une halakha. D'accord? Maintenant, nous, on l'entendit un peu flou comme ça. D'accord? Maintenant, lui, il s'en va. Il s'en va, après, on ne le retrouve plus. Il n'est pas là, parti. D'accord? Donc, on essaye de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc, il y aura un qui dira, moi, je pense qu'il voulait dire ça, moi, je pense qu'il voulait dire ça, moi, je pense qu'il voulait dire ça. Et à la fin, il y aura un qui va venir, M. Daniel va venir, va dire, moi je vais vous amener la preuve que ce qu'il a dit, c'est ça. Bon, t'as amené la preuve que ce qu'il a dit, c'est ça. Mais ça ne l'engage qu'à lui. Surtout que, on ne sait pas pourquoi lui, il a dit ça. La seule preuve qu'on a amenée ici, c'est de dire que voilà ce qu'il a dit. Mais, dans la Braïta, c'est pas expliqué pourquoi il a dit ça. Donc c'est pas une preuve. C'est une preuve que la Braïta parle de ça. Mais la Braïta n'a pas amené de preuve qu'on est obligé de dire que faire souffrir un animal, c'est sur de la Torah. La Braïta n'a jamais dit ça. La Braïta a simplement avancé un avis et nous on a expliqué que la Braïta parle de ce cas-là. Alors pourquoi la Braïta dit ça, on ne le sait pas. Elle n'a pas dit la Braïta. Relisez la Braïta, vous allez voir, la Braïta n'a pas donné aucune preuve.
Quand on parle du Mishnah Braïta, on parle d'a priori que c'est vrai, que c'est émettre.
Oui, si tu me dis que la Braïta suit la vie de Rabbi Yosef Glili, dans ce cas-là, ça n'engage pas Rava.
Pourquoi tu dirais qu'elle suit la vie de espèce de contraire?
Donc peut-être oui, peut-être non. Puisque peut-être oui, peut-être non, moi j'ai pas de preuve. C'est zéro.
Bon, alors de remonter plus haut pour chercher d'où Rava et...
De remonter encore plus haut. Razak. Encore une fois, je rappelle le principe. Quand c'est peut-être oui, peut-être non, dans la Gemara, ça vaut zéro.
D'accord.
C'est zéro. C'est nul. Tashma, bien écoute. Écoutez ce cas maintenant. C'est ça qu'on enseigne dans la Braïta. Si une personne voit deux animaux qui ont besoin d'aide, sort de chez lui, devant chez lui à la maison, il y a deux animaux qui ont besoin d'aide. D'accord. Un animal appartient à Oev, un animal appartient à donc à
Oev, deuxième à sonner.
Donc un premier animal appartient à Oev, à un ami à lui. D'accord. Et donc c'est un animal qui croule sous sa charge, sous sa charge, oui. D'accord. Et je dois l'aider à décharger. Et le deuxième animal appartient à qui?
Vaissonner.
Voilà. Le deuxième animal appartient à mon ennemi, d'accord. Et là, de quoi j'ai besoin? Lit-on. J'ai besoin de l'aider à, d'accord. Lit-on, ça veut dire quoi? Lit-on, ça veut dire l'aider à charger. Vous me suivez? Encore une fois, la réponse est évidente a priori. Donc j'ai un animal qui appartient à mon ami, et j'ai un animal qui appartient à mon ami, et qu'est-ce que j'ai besoin pour cet animal-là, c'est quoi? Je dois l'aider à décharger. Je sors de chez moi, je vois deux situations. Je vois l'animal, je vois mon ami à côté de son animal, d'accord? Et qu'est-ce que je vois? Je vois apparemment, il a la charge est sur son animal, donc son animal est en train de souffrir. J'ai mal, d'accord? Il hurle. Très bien. Juste à côté, je vois mon ennemi, comme ça, le voisin que je ne peux pas supporter. D'accord ?
Le blond.
Lui.
Non, pas le blond, je sors. Mais non.
Non. Il attend le blond.
Non, c'est lui qui me supporte. C'est lui qui me supporte. Non, le blond, c'est lui qui me supporte pas.
Non, l'ennemi, c'est un juif, donc je ne veux pas que le blond.
Donc je vois un deuxième animal. Un animal qui appartient à mon ennemi. Et lui, là, c'est déjà déchargé. Par contre, il n'arrive pas à charger. Lequel je dois aider en priorité?
Ah. Alors si on s'en refait à l'histoire de dimanche dernier, on a un problème de toute façon. Dans tous les cas, c'est de Raïta.
Dans quel cas l'animal il souffre? Chez l'ennemi ou chez l'ami?
Chez l'ami.
Donc la raison de plus que je dois l'aider en premier.
Ah oui. Bien sûr. Mais alors pourquoi on pose cette question? Il y aurait un doute.
Alors on va voir ce qu'a dit la Raïta. Mitzvah Bessonné.
Ah voilà.
La vache, pourquoi?
Non, la vache,
c'est... Non, c'est l'âne, c'est la terre.
Mitzvah Bessonné. J'ai la mitzvah d'aider en priorité mon ennemi.
Pour
pourquoi?
Pour l'entretien du...
Qu'aider la couf et titro.
Mikan.
D'accord. Qu'aider la couf et titro, ça veut dire quoi? Pour casser mon yitzhara.
Voilà.
Donc, a priori, là, c'est la preuve ultime que c'est pas de Horaïta, c'est pas de la Torah.
L'animal t'en fiche.
Parce que si tu me dis que c'est de la Torah, tu vas pas faire souffrir un animal pour casser ton yitzhara.
C'est pas un argument valable ce que tu me donnes là.
Pourquoi? Attendez, d'abord on finit l'argument, après vous me direz pourquoi il est pas valable. D'abord on finit.
Et d'où elle vient cette Braïta là?
C'est une Braïta, il l'a ramené.
Tout à l'heure aussi on l'a ramené, et on a dit il faut pas en tenir compte.
Non, on n'a pas dit qu'il faut pas en tenir compte. On a dit la Braïta est bonne, mais on peut dire que la Braïta parle de Rabbi Saglili. Très bien, donc maintenant on avance une nouvelle Braïta.
On va rentrer dans le même système.
On y arrive.
On va dire, c'est pas normal.
On n'est plus toutes les bretonnes, et après on verra.
Qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc si maintenant c'est un animal qui est... Donc si, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que mitzvah Bessonné. J'ai la mitzvah d'aider en priorité mon ennemi. Alors, je comprends pas. Si tu me dis que... Sarba lechaim deoraita. Si tu me dis que faire souffrir l'animal qui sort de la Torah à difflé. C'est évident que l'animal de mon ami doit passer avant l'animal de mon ennemi. C'est quoi cette histoire? Parce que je dois casser mon yitzharara, je veux souffrir l'animal. Donc de là, a priori, on a une preuve, la preuve ultime, qui c'est qui a interdit la souffrance de l'animal? C'est les chachamim. Pourquoi ils ont interdit la souffrance de l'animal? Une des raisons, ça peut être, par exemple, pour pas que je néglige l'animal. Et c'est les chachamim qui ont eu le choix, qui ont décidé, qui ont dit que dans ce cas-là précis, tu vas casser ton yitzharara, tu tiens pas compte de la souffrance de l'animal. Puisque de toutes les façons, faire souffrir l'animal, c'est nous qui te l'avons interdit, pour une raison bien précise. Et là, on pense que casser ton yitzharara, c'est le plus important. C'est la seule porte de sortie qu'on a. Sinon, si tu me dis que faire souffrir un animal, c'est la source de la Torah, il n'y a aucune raison pour expliquer ce que les Rachamim m'ont dit que je fais passer d'abord l'animal de mon ennemi. C'est pas logique.
Ah ben dans tous les cas de figure, ça paraît avec mon
Dans
tous les cas de figure, avec mon ennemi, je ferai la même chose.
Quoi?
Décharger, je casse mon yitzhara. Dans tous les cas de figure, si tu te bases assez, d'après les Chachamim, tu feras la même chose dans tous les cas de figure.
Très bien.
Charger, décharger, je casse mon yitzhara.
Très bien. Mais de ce cas-là, on a une preuve a priori que faire souffrir un animal, ce sont des Chachamim, pas de la Torah.
D'accord, oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Ici, il vient rajouter un texte dans la...
Mais dans un cas, je comprends pas. Dans un cas, on te dit
que... Il met des parenthèses intéressantes, là. Il dit...
Quelle parenthèse?
Et l'animal de l'ennemi de cette personne.
La bêche, oui.
Ça veut dire que tu vois ton ami...
est l'ennemi de ton ami.
Mais non.
C'est ce qu'ils disent, là.
Ah, attends. C'est onaze, là.
Non, tiens, c'est pas non, mon ennemi à moi,
c'est l'ennemi de mon ami.
Ah, oui.
D'accord.
Hein, parce que exactement.
En plus, on ne sait même pas s'il est juif ou gars, ce mec.
Mais non, si ton ennemi, c'est qu'il est juif.
L'ennemi de
c'est mon ennemi.
Comment
à moi.
Dit, comment dit Rachid juif, hein. L'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Moi, je voilà. Peux être suisse.
Moi, je fais demi-tour, je fais semblant de ne pas avoir fait mon
neutre. Non, ce qui est bizarre, c'est que si on oublie l'animal,
oui.
Dans un cas, tu dois l'aider, c'est ton ami. Et dans l'autre cas, le.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je fais passer qui en priorité?
L'ennemi.
Je fais passer en priorité.
Mais t'es pas obligé.
Maintenant, ça risque de me prendre du temps. Entre temps, l'autre risque de.
C'est pas ça,
l'autre. Non, on a dit mitzvah.
Alors c'est une autre mitzvah alors. Mais,
attends, les chamus te disent mitzvah.
Qui est en contradiction.
Sonner. D'accord.
Attends, qui est en contradiction.
Ah, vas-y, dis, Yaakov, vas-y, continue.
Elle est en contradiction, cette mitzvah, le fait de dire que ton ennemi, t'es pas obligé de l'aider.
Alors vas-y, continue, Yaakov. Tu dis qu'en vérité, ce qui se passe ici, c'est quoi le cas? Qu'est-ce qui se passe ici?
Ton ami que.
Ici, on a un conflit entre deux mitzvahs. Vas-y, continue.
Dans un cas, on te dit que ton ami, t'es obligé de l'aider à charger. Et ton ennemi, t'es obligé de l'aider à décharger, mais pas à charger.
Non, non, dis-moi clairement. C'est quoi le conflit qui est entre les deux mitzvahs? Dis-moi, une mitzvah d'un côté, une mitzvah de l'autre.
Une, t'es obligé, c'est aider ton ami à charger. Et une, t'es pas obligé, c'est aider ton ennemi à charger.
Ah non, ouais, je crois que t'as dit autre chose. Bon, non, c'est pas une réponse, là.
Et là, on te dit quoi? Il faut aider ton ennemi en priorité.
Mais pourquoi?
Mais t'es pas obligé d'aider ton ennemi.
Mais pourquoi mon ennemi passe avant?
Ah, parce qu'on est dans une période... comment on disait?
Inimitié.
Inimitié, ouais. Ah, bah, voilà, on est dans une période où les Romains, ils nous regardent. Ouais, les Juifs.
Non, là, c'est les Juifs, les deux.
C'est les Juifs.
Bon,
les deux.
C'est pas écrit, hein.
Si, si, c'est
les Juifs. Ça rapporte donc, c'est amis, ennemis,
c'est juif. Ennemis, c'est juif. Ce qu'on appelle amis non-juifs.
Voilà, t'as compris.
En tout cas, à l'époque.
ma question, elle est bête, mais je la recommence.
Encore une fois.
Si tu mets en priorité ton ennemi par rapport à ton ami, on avait vu précédemment que ton ami. Tu dois l'aider à charger, mais ton ennemi, tu n'es pas obligé. Et d'ailleurs, si tu le tuais, tu lui demandes rémunération.
Très bien. Donc la question qu'on se pose ici, c'est comment je peux faire passer mon ennemi en priorité?
Voilà, c'est ça.
Alors que l'animal de mon ami, il est en train de claquer.
Parle pas de l'animal.
Mais bien sûr.
On parle de...
Si, tu me dis que, si tu me dis que faire souffrir un animal, ça sort de la Torah. Dans ce cas-là, comment je peux laisser l'animal de mon ami claquer?
Tu dois l'aider, quoi qu'il arrive.
Parce que, pourquoi, ça veut dire en d'autres termes, la question que se pose la Gemara, de quel droit les Rachamim se sont permis de mêler ici un sentiment personnel? Le Yetzer Hara, qu'il faut cacher ton Yetzer Hara. Mais l'animal est en train de claquer. L'animal de mon ami, il est en train de claquer. L'animal de mon ami n'est pas en train de claquer. Tu dis, non, mais quand même, ton ennemi, il faut cacher ton Yetzer Hara. Mais je comprends pas. Mais si faire souffrir un animal, c'est sûr de la Torah. Comment les Rachamim peuvent venir et peuvent dire, bon, pour casser ton Yetzer Hara, on te demande de faire passer ton ennemi en priorité. Mais je comprends pas. L'animal de mon ami est en train de souffrir, donc il faut l'aider en priorité. L'animal de mon ennemi n'est pas en train de souffrir. Puisque la charge est à côté, personne ne souffre, elle peut attendre.
Mais si tu as sur qui t'appuyer, les
Rachamim. Sans parler de la souffrance, c'est que la mitzvah, tu dois aider à décharger l'animal de ton ami.
Alors oui, d'accord. Donc,
non, même alors, pas, même pas l'animal.
Alors,
tu fais qu'apporter alors, de l'eau.
Pourquoi tu mets en priorité donc, ton ennemi
donc c'est des rabananes.
Mais c'est pas lui qui met.
C'est pas la question,
c'est pas lui qui met, c'est la boraïta.
C'est pas la question.
Très bien.
On va dire que c'est des rabananes. Mettons que c'est des rabananes, comment ça se fait que la mitzvah d'aider ton ennemi à charger passe avant la mitzvah d'aider ton ami à décharger?
C'est pour ça que les rachamim te disent, c'est nous qui t'avons demandé de faire attention à la souffrance de l'animal. D'accord. Et nous, on pense que casser ton Yitzhara, c'est plus important.
Eh ben, tu as qui sur t'appuyer, tu fais c'est comme parce que les Rachamim t'ont donné un bon argument.
Donc de là j'ai une preuve que faire souffrir l'animal, c'est sur de la Torah ou des Rachamim.
Rachamim toujours.
Rachamim. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara repousse cette preuve-là. Elle dit non. Elle dit en vérité, faire souffrir un animal, c'est sur de la Torah. A filouachi, quand même, d'accord, bien que donc c'est ça sur de la Torah, quand même, j'ai l'obligation d'aider à décharger l'animal de mon ennemi, d'accord? Enfin, d'aider, pardon, à charger l'animal de mon ennemi avant de décharger l'animal de mon ami. Pourquoi, hein? La raison en est qu'aider la coffe est trop hadif. Parce qu'en vérité, le chidouche que les rachamim nous ont
appris, préférable.
C'est quoi, hein?
Voilà, préférable.
C'est qu'ici, j'ai le choix entre deux choses. J'ai le choix entre faire une mitzvah de la Torah. C'est ça ce que je voulais dire. J'ai deux mitzvahs de la Torah. J'ai une mitzvah de la Torah qui me dit qu'il faut casser ton Yetzer Hara. J'ai une autre mitzvah de la Torah qui me dit qu'il faut aider l'animal de ton ami ou ton ennemi, mais il ne faut pas laisser un animal souffrir. Donc en vérité, je vais te dire que faire souffrir un animal, c'est la source de la Torah. Ah, dans ce cas-là, pourquoi je fais passer mon Yetzer Hara avant? Parce que les Chachamim vont te dire que puisqu'il y a un conflit ici entre deux mitzvot, eux, ils ont tranché que casser ton Yetzer Hara, c'est plus important. Ve'aftal l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils ont pensé que c'est plus important.
D'accord ? Donc, peut-être... Donc, est-ce qu'on a une preuve que cette braïta... Est-ce qu'on a une preuve de cette braïta que faire souffrir un animal, ça sort de la Torah, oui ou non ?
Non.
On n'a toujours pas de preuve, parce que je peux t'expliquer des deux côtés. D'accord. Je peux expliquer que cette braïta... Que cette braïta, elle pense que faire souffrir un animal, c'est pas assaut de la Torah. Mais c'est pour ça que les chachamim se sont permis. Je peux t'expliquer que non. En vérité, c'est aussi assaut de la Torah. Pourquoi les chachamim t'ont dit qu'il faut faire passer avant le fait de casser ton Yitzhara? Parce qu'eux, ils pensent que la mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est plus important que la mitzvah de faire souffrir un animal. De pas faire souffrir un animal. Donc du coup, peut-être que la braïta pense que faire souffrir un animal, c'est aussi assaut de la Torah, sauf qu'ici, c'est une histoire de priorité.
C'est bizarre quand même, hein.
C'est fort, hein.
C'est fort parce que, imagine-toi, ta femme elle est de la chaîne bijoux, par exemple.
Saint-Valentin,
ça vient de rajouter un élément irrationnel. Ta femme.
Elle te dit par exemple, j'ai besoin de 500 euros pour acheter un bijou, d'accord. Mm-hmm. Et t'as par exemple un gala pour une association que tu sais qui est anti-Loubavitch, une association anti-Loubavitch, tu sais qui veut...
Ton ennemi,
tu vois. Non, anti-Loubavitch, j'ai dit. Hein.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit ton ennemi.
Alors, et il dit, voilà, il faut venir au gala, mais tu peux pas les saquer, ces gens-là, tu vois. Et tu dis à ta famille, le bijou, laisse tomber, je vais donner...
À cette association anti-Loubavitch.
C'est bizarre.
Donc là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que casser ton état, ça passe avant.
Ouais, mais là, tu vas casser le shalom bayit avec.
Mais peut-être qu'offrir un bijou à ta femme, c'est casser ton état aussi.
Non, mais oui, moins que...
C'est dit que c'est un animal.
Et ta femme, c'est pas un animal.
Merci pour la décision.
C'est
il faut préciser des mots.
Ça va?
On parle à toi.
Bien. Tâche, ma...
Je vais repartir aussi, c'est quelque chose.
Ah oui, ça
va. Ouais, j'y vais. J'ai mon fils qui va dans la voiture.
Bon.
Bonne journée.
Quelle heure il est? Ah, on va s'arrêter ici pour Khazara maintenant. Bien, écoute. Bon, donc on n'a toujours pas de preuves, d'accord. On n'a toujours pas de preuves. Est-ce que faire souffrir l'animal, c'est sort de la Torah ou c'est sort des Chachamim?
Attends, là, quasiment, c'est bête.
Non, c'est presque fini. Oh. Non, mais il faut prendre du temps, quoi. Enfin, j'ai pas envie de baquer. D'accord. On aura encore, si je ne me trompe pas, on aura encore 3 preuves la semaine prochaine. Et à la fin, on aura une preuve ultime. Mais bon, je ne peux pas vous la dire.
Attends, il y a deux versets, là. Il y a deux versets.
C'est pas dit que tu vas comprendre. Parce que c'est un peu fin.
Moi je suis à nave.
Voilà, et... on s'arrête ici, Khazara, révision.
Khazara Kobaro.
Je suis à nave.
Tu as envie ?
Dis rien.
Ouais.